Puis on passera la parole à Gérard Mauger, qui est directeur de la collection Champ Social, qui a publié cet ouvrage qui donne l'occasion d'organiser cette journée, donc l'ouvrage « Classe sociale et politique au Portugal, pratique du métier de sociologue ». Que nous avons coordonné. Donc, cette journée, elle est liée à l'apparition de l'ouvrage. Elle est aussi liée aux activités d'un programme de coopération scientifique qui a démarré l'an dernier. Donc, un programme financé par le CNRS, c'est les programmes PIX du CNRS. Donc, c'est un programme PIX qui s'appelle « Comparer classe sociale et inégalité en France et au Portugal ». Qui réunit un groupe de chercheuses et chercheuses du CRESPA CSU. Donc, il y a Adèle Barrault, qui est ici, Paul Obeika, Cédric Hugré, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, Cédric Lomba et moi. Et un groupe de chercheuses et chercheurs de l'Institut de sociologie de l'Université de Porto. Et quatre d'entre eux sont présents aujourd'hui, donc qu'on va entendre à différents moments de la journée. Donc Virgilio Borges Pereira, Carla de Almeida qui est là, João Queiroz qui est là, et Bruno Montero à côté de lui, et d'autres collègues qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc c'est un programme de coopération scientifique qui vise à nourrir la réflexion sur la comparaison des structures sociales et des rapports sociaux en Europe à partir de ce cas spécifique de la comparaison entre la France et le Portugal, et on essaye de nourrir la réflexion sur ces pratiques de comparaison et sur les apports de cette comparaison de différentes manières, de manière assez classique, en essayant de faire circuler des travaux entre les deux espaces académiques nationaux, mais aussi en comparant et en discutant de façon croisée des enquêtes en cours ou déjà réalisées sur des terrains proches dans les deux pays, et aussi en essayant de comparer plus directement des données produites dans des enquêtes en cours avec des questions communes et travailler aussi sur des données statistiques. Donc la journée rend compte d'une partie de ces démarches et de ces manières de nourrir la réflexion en matière de comparaison. Donc ce matin va être consacré à la présentation et à la discussion de cet ouvrage. Je ne vais pas en parler très longuement puisqu'il va être largement présenté, mais juste pour rappeler que l'idée de la réalisation de cet ouvrage, c'était de rendre disponible en français un ensemble de travaux de cette équipe de l'Institut de sociologie de Porto, qui sont des collègues qui, eux, depuis très longtemps, font connaître au Portugal par la traduction, par des invitations, de nombreux travaux réalisés par des chercheuses et chercheurs en France et ailleurs. Et tandis que leurs travaux, même s'il y a un certain nombre de publications en anglais et en français, ils sont quand même moins connus des collègues ici. Et l'idée, c'était aussi de publier un ouvrage qui donne à voir les transformations sociales au Portugal dans la période récente, mais aussi un peu plus largement depuis la chute de la dictature, puisqu'il y a finalement très peu de publications, notamment sociologiques en français. Il y a plus d'ouvrages d'histoire ou littérature, mais en sociologie, pas grand-chose. Donc voilà un peu pour la matinée. Cet après-midi, on reviendra plus en détail sur le programme, mais ça sera consacré à la présentation et à la discussion de plusieurs travaux récents et de travaux en cours qui sont menés en France, qui sont menés au Portugal et qui prennent pour objet les migrations et les trajectoires sociales entre la France et le Portugal, plutôt entre le Portugal et la France, dans les deux sens en tout cas, et les représentations des classes populaires dans les deux pays, ainsi que leur articulation aux rapports sociaux de genre et les dimensions ethno-raciales de ces rapports qui seront abordés par plusieurs interventions. Donc je vais ensuite passer la parole à Virgilio pour dire quelques mots également, mais je voulais tous vous remercier de votre présence, en particulier les collègues qui sont venus de Porto, mais aussi tous les intervenants, les discutants qui permettent à cette journée d'exister. Je voulais remercier Thomas Guiffard qui est là-bas derrière et qui va filmer cette journée. Et les éditions du Croquant, donc en l'occurrence Gérard Mauger, qui a accueilli avec enthousiasme cet ouvrage dans la collection qu'il anime et qui a accompagné la fabrication du manuscrit à toutes ces étapes. Et puis Louis Weber aussi, qui est le gérant des éditions, qui a fait aussi tout un travail sur cet ouvrage, mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui.
Bonjour. Je voudrais seulement dire en mot rapide pour remercier la présence de toutes et de tous, et surtout pour remercier tout un ensemble de personnes et d'institutions qui ont été à l'origine de cet ouvrage. Pour commencer, aux responsables des éditions du Croquant, à commencer par Gérard Mauger, ici présent, pour avoir soutenu cette idée depuis le début. Outre l'admiration ancienne par le travail sociologique de Gérard et de plusieurs autres responsables de cette maison éditoriale, les ouvrages et le militantisme scientifique du collectif ainsi réunis constituent un exemple pour nous. Et c'est vraiment de l'ordre de la joie, savoir que ce livre vient de sortir dans ces conditions. Il faut aussi remercier les institutions, notamment les projets, les centres de recherche au Portugal et en France, qui ont soutenu la publication. Sans ces appuis-là, tout cela serait vraiment très difficile, voire même impossible de faire. Yasmine a parlé sur les idées qui ont été à l'origine du livre et de l'effort d'illustration d'un ensemble de pratiques de la recherche sociologique caractéristiques de notre équipe que nous avons voulu mobiliser pour ce livre. Il s'agit vraiment d'un travail collectif largement inspiré par la recherche et l'exemple de José Madureira Pinto, qui, par des raisons de santé soudaine, n'a pas pu venir, mais qui a des liens ancien avec une certaine pratique de réception, de discussion et d'appropriation de certaines traditions sociologiques françaises qui ont été largement promues par lui et par les sociologues qui travaillent depuis longtemps autour de lui. Donc pour lui aussi, c'est vraiment un moment de joie, savoir que ce livre vient de sortir et il m'a demandé de dire ça aujourd'hui. Par ailleurs, il faut aussi signaler et remercier les complicités intellectuelles avec certains collègues français qui connaissent nos travaux depuis longtemps et qui ont accepté l'invitation pour participer dans l'ouvrage avec leurs commentaires et surtout tout le travail intellectuel que depuis plusieurs années on fait avec cela et aussi avec d'autres, par exemple avec Michel ici présent. C'est vraiment aussi un très grand plaisir de voir que Michel Pialou est là. Bien sûr, il faut reconnaître et remercier profondément la disponibilité, le travail militant pour la cause sociologique de Yasmine Siblo. Sans tout son investissement, ce travail serait aussi impossible. C'est aussi le moment de le reconnaître et de le dire publiquement et surtout de le dire avec un très grand plaisir aussi. Aussi à ce niveau, nous sommes devant un livre qui est le résultat d'un vrai travail d'équipe. Et donc, c'est aussi l'esprit de ce travail d'équipe qui passe beaucoup aussi par cette maison-là qu'il faut célébrer dans ce moment. Et donc, c'est avec un très grand plaisir que je suis là et que je vois ce livre sortir. Merci beaucoup.
Bon, je voulais remercier Virgilio et Yasmine de m'avoir invité à dire quelques mots. Je les remercie de leur remerciement aussi, parce que bon, voilà, j'ai fait ça tout naturellement et avec beaucoup de plaisir. C'est ce que j'ai fait, peu de choses. C'est au fond favoriser effectivement l'existence de ce livre. Alors, si on me demande, puisque c'est le cas, quelques réflexions sur ce que j'ai fait, alors je voudrais vous livrer quelques réflexions rapides sur ma participation extrêmement modeste à ce travail, et plus précisément à la publication de ce livre, donc dont le titre, je rappelle, est « Classe sociale et politique au Portugal » et le sous-titre « Pratique du métier de sociologue », ce qui indique au fond, je crois, deux objets. Bien. Il me semble que si on essaye de réfléchir sociologiquement à ce qu'a été ma petite contribution à ce travail, elle est, un travail qui est de contribution à ce que Bourdieu appelait la circulation internationale des idées. Bon, voilà, c'est une modeste contribution à cette circulation internationale, dont il rappelait qu'elle implique un certain nombre d'opérations qui sont plus ou moins difficiles à réaliser, mais qui me semblent être effectivement significatives. Alors il disait, voilà, ça commence par quoi, ce genre de travail? Une opération de sélection. Hein, c'est on traduit quoi? C'est-à-dire on traduit qui? Bon, j'ai pas participé à ça. C'est à vous que revient cette tâche. Et puis, deuxième opération qui est qui traduit. Il a fallu trouver une traductrice, je crois. J'ai pas participé.
Plusieurs.
Bon, j'ai pas participé à ça non plus. Sinon, peut-être une révision pour améliorer la fluidité de la traduction en français. Une deuxième opération qui est une opération de marquage. Alors là, d'une certaine façon, j'y participe. C'est le choix du le marquage. Ben, c'est d'abord une maison d'édition, Le Croquant, bon, qui a sa spécificité dans le champ éditorial français des sciences sociales aujourd'hui. Plus spécifiquement, une collection dans ces éditions du Croquant. Il se trouve que je m'en occupe, effectivement, depuis sa création, champ social, bon, qui est au fond, un lieu où on essaie de publier des travaux sociologiques qui j'ai du mal à les définir, tiens, voilà. Bon, voilà, on pourrait réfléchir à ça. Bon, qui sont de la sociologie au sens où je l'entends. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Mais bon, ça demanderait sans doute quelques développements que je suis incapable de faire comme ça tout de suite. Bon, c'est aussi cette opération de marquage, donc voilà, des éditions, une collection, et puis des préfaciers. Alors bon, Yasmine, et puis Nicolas Rainahi et Vincent Dubois, bon, qui sont évidemment des choix marquants, voilà, qui signifient quelque chose, en tout cas, dans le champ de la sociologie en France. Bon, ça implique enfin, dit Bourdieu, des opérations de lecture. Bah, ça, c'est ce à quoi nous sommes conviés, quoi. Bon, voilà, c'est la réception qui ne manquera pas de se produire, qui s'est déjà produite pour un certain nombre d'entre nous, je pense, qui ont lu le livre. Bien. Un problème de réception dont il rappelait aussi que c'est pas, après tout, ça va pas tout à fait de soi. D'abord, ça va jamais de soi. Et puis, ça va d'autant moins de soi que, comme il disait encore, les textes circulent sans leur contexte. Mais c'est intéressant parce que là, il y a un peu des éléments de contexte. Voilà, c'est le titre et le sous-titre que je rappelais tout à l'heure. C'est au fond, bon, une position plus ou moins facile à délimiter dans le champ de la sociologie portugaise, d'une part, et puis ici aussi, bon, voilà, le lecteur est convié à se situer là-dedans. Bien. Alors, si j'ai évoqué cette triple opération, c'est qu'elle soulève un ensemble de questions sociologiques intéressantes, je crois. Hein. On a parlé d'opérations de sélection. Bah oui, c'est qui découvre, quoi. Qui sont les gatekeepers, qui choisit qui, quoi. Bon, c'est intéressant, effectivement, c'est une vraie question de sociologie. C'est quoi les propriétés de ces gatekeepers? Qui découvre qui? Hein, bon, voilà, donc j'imagine que ça, tout ça ne s'opère évidemment pas au hasard, ça suppose des affinités électives, hein, ça suppose sans doute aussi, ces affinités électives sont-elles liées à des homologies de position dans les champs respectifs des deux pays, quels sont les profits d'appropriation aussi de ce type de travail, comment s'opèrent les transferts de capital symbolique. On peut les comprendre tout à l'heure quand j'évoquais par exemple les préfaciers. Bon, c'est pas du tout innocent, évidemment, ça marque. On fait des opérations symboliques particulières, mais qui sont propres au champ de la sociologie. Bon, sans doute aussi, alors c'est moins plaisant, mais c'est mieux le savoir pour essayer de les corriger, des effets de prisme déformants, quoi. Bon, voilà, on lit avec des catégories de pensée d'ici des choses qui ont été produites avec des catégories de pensée d'ailleurs, c'est-à-dire bon, des choses qu'on croit savoir, mais qu'on ne sait pas toujours aussi bien qu'on croit le savoir, bon, qui méritent qu'on les élucide. Alors, un deuxième propos, je vais aller très vite, hein, c'est il me semble que cette opération est aussi une contribution relativement singulière, et je m'en suis étonné en y réfléchissant, par rapport à ce commerce international des idées dont je parlais tout à l'heure. Il me semble que l'essentiel des flux dans ce commerce international, que ce soit vers le Portugal, vers la France ou vers d'ailleurs l'ensemble de l'Union européenne, provient pour l'essentiel des États-Unis. Bon, et contribue ainsi à ce que Bourdieu et Vacan appelaient dans un vieil article la nouvelle vulgate planétaire. En fait, je crois, voilà, si on doit résumer en un mot ce que c'est que ce commerce international des idées tel qu'il se déroule aujourd'hui dans le monde, voilà, c'est l'invasion américaine. Voilà, on pourrait dire comme ça. Alors, pardonnez-moi, ce qui peut avoir l'air d'un anti-américanisme primaire, c'est pas ce que je veux dire, mais je crois que c'est la réalité, c'est objectivement vrai, c'est comme ça, quoi. Bon. Voilà, nous sommes envahis par des flots de studies en tout genre. Voilà, c'est comme ça en France, et c'est vrai, je crois, dans toute l'Union européenne. Or, je crois que tout ça est aussi le produit d'une forme d'impérialisme symbolique, C'est une espèce de violence universitaire, de violence symbolique spécifique qui, je cite Bourdieu et Vacan, disait qui universalise le les particularismes liés à une expérience historique singulière en les faisant méconnaître comme tels et reconnaître comme universels, c'est-à-dire aussi capable de faire passer des querelles de campus pour des épopées conceptuelles, disait-il méchamment, mais je crois bon, ça mérite qu'on s'y attarde, ce genre de réflexion incisive mérite qu'on s'y attarde. Bon, voilà, donc une espèce de vulgate voilà, qui américaine, qui tient sa force à la fois, je crois, du capital symbolique propre au lieu d'où elle émane, les grandes universités américaines, non, c'est comme ça, ça impressionne, mais aussi, bon, à leur omniprésence dans les écoles du pouvoir, c'est vrai, je crois, un peu partout, en tout cas en France, c'est archi vrai, voilà, et dans le monde, une espèce d'illusion avant-gardiste aussi, qui est liée à, bon, voilà, ça vient de, voilà, donc c'est formidable, bon, voilà, bon, donc, alors, c'est ennuyeux, je crois, parce que c'est, enfin, je veux dire, ça a son intérêt, bien sûr, mais ça aussi, c'est aussi ennuyeux parce que cette vulgate contribue à faire, je crois, d'une société historique particulière, le modèle et la mesure de toute chose, sans y réfléchir vraiment, voilà, sans prendre la peine de réfléchir un instant. Bon, voilà. Et c'est d'autant plus embêtant que ce genre de vulgate fonctionne aussi comme une espèce de prophétie autoréalisante, c'est-à-dire qui est capable de faire advenir ce dont elle parle comme étant une description. Voilà. Bon, donc je crois qu'il y a... Voilà, je ne veux pas en dire plus, mais ça me semble une réflexion possible hein, sur les formes contemporaines de ce commerce international des idées et sur le fait qu'elle est sous emprise, sous domination, je crois, des importations, de l'import-export entre l'Union européenne et les États-Unis. Bon, enfin, je vais revenir à trois derniers mots et je termine. C'est enfin, bien sûr, une contribution qui est une invitation à la recherche comparative. Bon, ça me semble important, hein, c'est, dans la mesure où le comparatisme est, je crois, pourrait être considéré même comme l'essence même de la recherche en sciences sociales. Quoi. C'était ce que disait Durkheim dans les règles de la méthode sociologique. Hein, il disait « la sociologie comparée n'est pas une branche particulière de la sociologie, c'est la sociologie même, en tant qu'elle cesse d'être purement descriptive et aspire à rendre compte des faits. » Voilà. Donc, je pense que de ce point de vue-là, on peut dire que c'est une opération évidemment tout à fait légitime. Alors, non pas par révérence au Saint-Père, hein, Durkheim, mais parce que je crois qu'il y a dans le comparatisme effectivement un antidote puissant par rapport au bien impérialiste dont je parlais tout à l'heure, par rapport à l'ethnocentrisme en général, je crois que c'est une chose tout à fait importante, c'est une espèce d'invitation au décentrement, hein, à la réflexivité, c'est-à-dire au retournement du regard du sociologue sur lui-même. Voilà. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est un livre exemplaire. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles j'étais ravi de publier ce livre dans la collection Champs Social. Voilà, j'y reviens. Plus concrètement, donc, ce livre, je crois, devrait permettre, premièrement, de mieux connaître une société dont on ne sait pas grand-chose en France, en dépit de sa proximité géographique, en dépit de la présence ancienne de travailleurs immigrés, etc. Bon, que si j'ai fait un inventaire comme ça rapide de ce que je sais du Portugal, alors vraiment, c'est lamentable, je vais vous dire. Alors, c'est le souvenir scolaire de Vasco de Gama et d'un grand empire colonial. Alors, c'est des vieux souvenirs du lycée, quoi. Bon, voilà, ce qu'on apprend. C'est plus proche de nous et de moi, qui ne suis pas tout jeune, la dictature de Salazar. Bon, c'était aussi un de ces pays, voilà, qui a eu droit à ce genre de choses. C'est, alors là, je l'ai vécu dans l'enthousiasme, la révolution des œillets, bien sûr, en avril 1974. Je me souviens avoir participé d'enthousiasme à cet événement. Et alors pour aujourd'hui, ce que je sais, c'est sans doute une relative spécificité politique dans l'Union européenne d'aujourd'hui. Alors je dirais, voilà, j'essaie de résumer, vous corrigerez mes bêtises. Bon, c'est pour moi, voilà, un premier ministre social-démocrate, Antonio Costa, mais allié de la gauche radicale voilà, portugaise, pour ce que j'en sais, donc vous voyez, bon, une relative spécificité, c'est... en ce qui concerne toujours dans le champ politique, hein, des taux d'abstention record, ça c'est comme tout le monde, mais une extrême droite quasi absente au Portugal, ce qui est voilà, une spécificité sans doute dans l'Union européenne, c'est, comme partout, une précarité croissante La détérioration des services publics, etc. On en parle dans le livre, mais on dit aussi le miracle économique portugais. Voilà, donc un ensemble de spécificités qui, moi, m'interrogent en tout cas. Voilà, dont je voulais vous faire part rapidement. Alors, c'est aussi, d'autre part, ce livre, une manière de mieux connaître une sociologie portugaise qu'on connaît sans doute encore moins que la société portugaise en France. Une sociologie, quand en lisant ce livre, dont on découvre qu'elle est aussi très très proche du pôle homologue dans le champ de la sociologie française. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup.